Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-état. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï, celle des Français qui entreprennent. Avec l'exposition universelle 2020 ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa sur la prise de risque et auteur du site lawfromparis.com. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à lawfromparis. Si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. À très vite dans Histoire de Dubaï. Aujourd'hui, je suis avec Marianne Tafani, professeure de Pilates ici à Dubaï. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast pour le deuxième épisode. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, à nos auditeurs à Dubaï ou ailleurs qui nous écoutent ?
Alors, je m'appelle Marianne, j'ai 33 ans, j'ai grandi dans le sud de la France, j'ai travaillé ensuite à Paris, fait mes études dans plusieurs pays, puis on est arrivé ici il y a 5 ans. Dans un mois, ça fera 5 ans. J'ai monté petit à petit, de façon très organique, un business de Pilates. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Du point de vue personnel, j'ai un petit garçon de 3 ans qui est né ici. Et on est assez heureux à Dubaï. On est plutôt bien.
Dans quelles circonstances tu es arrivée, en fait ? C'est ton mari qui a eu une offre ?
Oui, ouais. C'est mon mari. Alors, mon mari a eu une offre. Et puis, moi, en France, j'avais du mal à me trouver professionnellement. J'ai eu pas mal d'emplois dans mes... entre 23 et 29 ans.
Dans quoi ?
Alors, j'ai fait des études plutôt de politique, d'économie, et j'ai eu des emplois dans ces domaines-là, mais je manquais de connexion. Mon dernier travail était à l'Assemblée, mais j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir y accéder. Et puis, c'est parfois, on rêve de quelque chose, et puis quand on y arrive, on se rend compte que la réalité n'est pas aussi glorieuse que ce qu'on attendait du travail. Donc, quand il a eu cette opportunité-là, comme... je sentais qu'il y avait des petites choses idéologiques qui ne me convenaient pas avec mon parlementaire. On a décidé de...
Tu avais quel âge à cette époque ?
J'allais avoir... j'avais 28 ans.
D'accord. 28 ans. Justement, on parle toujours des bons côtés. Lorsqu'on arrive en expatriation, tout est beau, mais jamais des difficultés liées à une arrivée. Est-ce que tu peux me raconter, avec le souvenir que tu en as, tes premiers mois quand tu es arrivée à Dubaï, justement, dans les mauvais, dans les bons et dans les mauvais côtés ?
Alors, je pense que quand les choses se sont bien finies, se passent bien et qu'on a un emploi qu'on aime et une belle vie, on oublie. C'est-à-dire que j'ai du mal à me rappeler ce qui a été difficile au début, mais je vois plutôt ce qui était beau, c'est-à-dire qu'on est arrivé, il faisait chaud, il faisait beau tout le temps. J'étais libre aussi d'un coup parce que j'avais beaucoup travaillé, fait mes études, j'avais pas eu beaucoup de repos. Mais si je dois penser à ce qui a été plus difficile, je dirais que au début, on n'a pas d'emploi.
Ouais.
On n'a pas forcément beaucoup
on
d'argent.
On se retrouve avec soi-même.
On se retrouve avec soi-même, un compagnon qui travaille, qui doit faire ses preuves. Donc, peut-être un petit peu de solitude au début. Hein. On n'a pas forcément une fabrique sociale très importante, un réseau, on va dire. On n'a pas encore de réseau. Moi, j'ai commencé à prendre des cours d'arabe 6 jours après être arrivée. C'était pour ça, en fait. C'était
pour rencontrer des gens.
Pour rencontrer des gens, avoir une forme de structure. Je pense que c'est le manque de structure qui, à la fois, de l'extérieur, paraît super. Moi, tous mes anciens amis qui étaient collaborateurs, ils étaient « Oh, tu vis le rêve, t'es à la plage ». Et moi, j'avais juste peur de jamais trouver de travail, que mes compétences ne soient pas valorisées.
Tu voulais trouver un travail à ce moment-là ?
Ah oui, oui, je voulais. En fait, idéalement, je voulais trouver un travail, prendre mon été. On est arrivé, moi, je suis arrivée en avril. Et ici, le ramadan, les choses ralentissent énormément économiquement. Donc, l'année en question, c'était mi-juin, mi-juillet. Donc, je m'étais dit, bon, je m'affole pas. Si je trouve pas, j'aurai un bel été. Mais quand je suis rentrée en septembre, ça a été... Bon, voilà, c'était un petit peu... Je me suis dit, bon, avant Noël, il faut avoir trouvé quelque chose, quoi.
Et donc, quelles ont été justement les premières actions que tu as mises en place pour essayer de trouver?
Dès qu'on est arrivé, j'ai été au FBC, au French Business Council. Mais ce n'était pas super encourageant parce que je pense qu'elle essayait un petit peu de... La dame qui était en charge des ateliers, elle essayait de calmer les ardeurs de certains qui arrivaient sans visa, sans soutien. Moi, j'avais le soutien d'un partenaire. On avait quand même un salaire. Il y a des gens qui arrivaient qui pensaient qu'ils avaient dû voir un reportage dans Capital et se dire que c'était la vie de rêve. Et puis, elle voulait un peu les calmer. Mais du coup, moi, c'est vrai que ça a été plus générateur d'anxiété qu'autre chose. Mais ça m'avait donné quelques bases sur comment valoriser mes compétences, etc. Et puis, j'ai commencé à chercher dans le conseil parce que je me suis dit que c'était ce qui pourrait marcher.
Donc, le conseil dans ton domaine dans...
Ah non, parce qu'il n'y avait pas vraiment de conseil. Le conseil, tout ce qui est gouvernemental ici... On peut jamais trouver de... C'est très dur de trouver une offre d'embauche. Il faut connaître des gens. Donc, on est venu me chercher il y a peut-être 2 ans sur ce sujet pour Expo 2020. Mais c'est qu'une fois que les gens vous connaissent. Donc, ici, beaucoup de choses marchent au bouche à oreille. Donc, je crois que c'était Oliver Wyman. Et puis ensuite, Ernst & Young. Mais je cherchais plutôt... j'avais du mal justement à me dire comment je vais faire parce que ces compétences... politique publique, etc., sont pas forcément très valorisées. Alors qu'en fait, au niveau RH, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent déstabilisées quand elles arrivent ici parce qu'elles voient bien que les RH à Dubaï veulent que sur un CV, il y ait écrit exactement ce qu'ils recherchent. Mmh. Ils ne cherchent pas forcément le talent. J'ai mis en place, j'ai envoyé quelques CV, j'ai passé quelques entretiens. J'ai aussi écrit à des personnes en France qui pouvaient connaître des gens ici dans la même boîte. Et puis, j'ai eu quelques entretiens. Et puis, dans le même temps, comme je ne voulais pas perdre mon temps et que c'était la première fois que j'avais du temps pour moi, j'ai fait donc un peu d'arabe et puis des formations de pilates. Pour mon plaisir.
Ok.
pour poursuivre une passion qui était la mienne.
Ok. Et justement, donc, aujourd'hui, tu es professeur de pilates à Dubaï, reconnu aussi pour cela. Est-ce que tu peux m'expliquer ce virage? Est-ce que ça a été un déclic? Ou un jour, tu t'es dit, OK, en fait, c'est ça ce que je veux faire? Ou alors, non, ça a été progressif, c'est en prenant les cours. Enfin, comment ça s'est passé?
Alors, encore une fois, c'est très facile de réécrire l'histoire. Mais si je suis très sincère, c'était pas un déclic. Ouais. La passion pour le sport, pour le corps, pour mieux se comprendre. Moi, j'ai eu beaucoup de blessures très jeune. J'ai fait de la gymnastique rythmique à bon niveau très jeune. Et à 16 ans, je ne pouvais déjà plus marcher correctement. Et puis, j'étais dans une petite ville du sud de la France. Donc, au niveau médical, je n'ai pas été très, très bien appuyée. Donc, j'avais été naturellement vers ces milieux-là. Et quand j'étais étudiante à Londres, j'ai fait mon premier cours de pilates. Je devais avoir 22 ans. Et à ce moment-là, j'ai eu une petite révélation, on va dire. Mais ce n'est pas des épiphanies. Enfin, je n'ai pas eu une épiphanie. Je suis arrivée ici. Je me suis dit, je vais être prof de pilates.
Ouais.
Je pense que les gens l'ont vu avant moi. C'est-à-dire que quand j'ai expliqué mon changement de carrière à des amis avec une forte peur du jugement, je venais d'un milieu très reconnu en fait, être attaché parlementaire ou collaborateur parlementaire, c'est
le Graal pour certains.
C'est le Graal et puis surtout c'est très bien vu alors que foncièrement c'est assez mal payé. Beaucoup d'entre nous avons eu des relations très compliquées avec les personnes qu'on assistait et pour qui on donnait toutes nos journées. Donc je pense que mais j'avais quand même peur. Je pense qu'on cherche toujours, c'est peut-être très français, mais on a besoin de cette reconnaissance de l'école, du titre. Et donc, je pense que non, ça n'a pas du tout été un déclic. Mais comme je te l'ai dit, je m'étais vraiment dit, il faut quand même que je gagne un petit peu d'argent et que je quitte à attendre encore un petit peu. J'ai fait ces formations, j'ai commencé à approcher certains studios parce que dans la communauté, une des profs qui m'avait formée n'arrêtait pas de me dire « Mais pourquoi tu cherches encore ailleurs ?»
C'est fait pour toi.
Et toi, tu ne l'avais pas réalisé à ce moment-là?
Non, parce que je n'étais pas sûre d'aimer l'enseignement et j'avais peut-être peur aussi un peu intellectuellement. Ouais. Je pense qu'il y ait des choses qui me manquent. Puis je pense qu'on aime bien être très occupé par des tâches, en fait. Et cette espèce de vide où on doit tout organiser soi, on doit tout gérer soi, son emploi du temps, sa stimulation intellectuelle. Ouais. Je pense que les gens sont souvent très heureux, et moi j'en faisais partie, d'écrire 400 emails par jour, de pouvoir le dire. C'est une façon de dire j'ai été productif, quoi. Ouais, j'ai une vie trépidante. Et je pense que je le voyais pas. Je voyais pas que ça pouvait être valorisant, valorisé.
Puis une activité pour toi, ouais, qui.
Puis je pense que je voyais pas la dimension business, la dimension recherche. Je fais pas que donner des cours aujourd'hui. À l'époque, c'était le cas, mais aujourd'hui, mon activité, elle est beaucoup plus variée que ça. Et donc, je pense que mon mari m'a toujours dit, un métier, c'est ce qu'on en fait. Parce qu'à l'inverse de moi, il n'a pas fait d'études et il a fait sa carrière dans sa première entreprise, en fait, en commençant, en faisant des photocopies. Et il m'a toujours dit, tu penses trop au titre, à ce qu'on te propose. Qu'est-ce que toi, tu vas en faire ? Voilà. Et je pense que c'est la première fois que j'en ai fait quelque chose pour moi.
Oui.
Voilà.
Et toi, concrètement, du coup, à partir du moment où tu as réalisé que c'était fait pour toi, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as mis en place ?
Alors, encore une fois, il y a une partie de mes décisions et une partie de la vie apporte qu'elle apporte.
Ouais.
Donc, j'ai commencé par... j'avais eu ces contacts avec certains studios. Et puis, le déclic, ça a été qu'avec EY, ça s'était très bien passé, l'entretien. Et puis, elle m'a recontactée pour un stage. Donc là, je venais d'avoir 29 ans.
Ouais.
J'avais quand même 6 ans d'expérience professionnelle. C'était pas légal de me proposer un stage. C'était pas très cool de me proposer très peu d'argent, alors que j'avais été la première sur 800 personnes qui avaient fait une demande pour ce poste. Et je me suis dit non. Et j'avais aussi des problèmes de... J'ai toujours eu des problèmes de sommeil. Et mon mari me disait, pourquoi ça va t'aider à trouver un rythme qui te convient. Donc, j'ai commencé à travailler dans un studio qui m'a recruté pour quelques heures seulement. Et puis, j'avais rencontré une franco-italienne qui montait son studio à cette époque-là. Le courant était très bien passé. Et petit à petit, j'ai fait un peu plus de formation avec elle. Et elle m'a proposé de monter une clientèle au sein du studio. Donc, à partir de... Ça s'est fait progressivement, mais disons que peut-être 6 mois après avoir commencé, j'avais un emploi du temps très rempli. En fait, il y avait un pass qui s'appelle Guava Pass. Je ne sais pas si tu en as entendu parler ou si ça existait en France. C'était un pass discount. Et elle n'avait pas le temps de s'occuper de ces clients-là, mais elle voulait quand même qu'on soit sur ce pass pour avoir une visibilité accrue. Et donc, notre partenariat a commencé comme ça.
Et la question s'est posée à ce moment-là, si tu devais quitter Dubaï et rentrer en France ou aller ailleurs ou...
Pas à ce moment-là. Elle s'est posée l'été dernier. Tu veux dire à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision?
Oui, quand tu as pris cette décision, comment rebondir si jamais tu rentrais
Non, parce que je pense que j'avais compris que moi, j'ai pas dit que la politique, c'est fini à vie pour moi. Mais ce sera plus assisté, ce sera une action politique éventuellement, si un jour ça se présente, si j'en ai le courage aussi, parce que franchement, vu ce qui est la transformation du milieu et ce qu'on a vu récemment à Paris, bon, ça fait pas forcément très très envie, il faut beaucoup donner et beaucoup recevoir et pas forcément que des bonnes choses, mais puis c'est pas toujours facile de garder son intégrité, donc on verra, mais en tout cas je savais que je retournerais pas assister des parlementaires.
D'accord. Et combien de temps, juste pour visualiser, il s'est passé entre le moment où tu t'es lancé, où tu as eu l'idée, puis tu t'es lancé, c'est...
Alors ça a été très rapide.
Ouais.
J'ai fait ma formation en juin, mais comme je te l'ai dit, c'était vraiment pour le plaisir. J'ai continué à en faire pendant l'été. Le moment où on a eu la discussion avec mon mari, ça devait être en octobre, et j'avais déjà commencé à donner des cours à un ami qui était... assez riche, il faut le dire. Je pense qu'il essayait de me soutenir auprès du studio en question, de montrer que je pouvais ramener du monde. Donc, j'ai eu cette chance-là. Je pense que c'était déjà en cours, en fait. Comme je te le dis, je pense que j'ai pas vu la chose venir. Ce qui est très marrant, c'est que quelques semaines avant d'être venue vivre ici, je suis partie faire une retraite aux Canaries, retraite yoga pilates. Il y avait une prof de pilates qui avait monté son studio en Angleterre et elle m'écoutait parler de la politique, elle m'écoutait parler de mes envies. Et elle me disait, tu sais, le vent tourne pour toi. Et elle me dit, on sait jamais, ne ferme pas de porte. C'est comme si elle l'avait vu avant même que moi, j'y pense. Donc non, ça s'est fait très vite.
Ok, très bien. Et donc une question que je me pose pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient aussi se lancer, et c'est une vraie question ici et je le vois puisque je viens d'arriver. Quel est ton statut en fait aujourd'hui? Quand on veut créer comme ça une société, une entreprise et se mettre à son compte, comment tu as fait toi? Quel statut tu as et comment tu t'es fait accompagner sur ce sujet?
Alors, moi, je n'ai pas monté mon entreprise tout de suite. Elle est en cours de... Là, on est en train de réfléchir à la meilleure licence parce que, comme je te l'ai dit, il y a plusieurs activités que je vais intégrer et on en parlera après. Mais moi, j'ai travaillé... Ma façon de travailler légalement, ça a été de trouver des partenaires.
Ouais.
Donc, cette personne dans le studio, elle m'a fait une carte de travail. Donc, je suis restée... Donc, quand on est... j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui vont te suivre puisqu'elles vont vivre certainement dans... un certain nombre de choses que tu vis. Et quand on est donc femme d'expat, bon, même si on n'aime pas trop ce mot, mais quand on arrive pour son compagnon, on a un statut
quand on
de...
est femme expat.
Expat, voilà.
Voilà.
On arrive, on est donc considérée comme housewife. Sur le... Alors, je ne sais pas s'ils l'ont enlevé maintenant, mais à l'époque, c'était ça. Ce qui faisait beaucoup rire mon mari. De dire, qu'est-ce que tu es femme au foyer. Et donc, ce qu'on peut obtenir, c'est des cartes de travail. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir tout de suite sa compagnie et son visa, mais voilà. Moi, ça a été ma façon d'être dans la légalité et de trouver aussi des partenariats. Parce que trouver des clients, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'était une façon aussi d'être exposé.
Ouais.
À la base, c'était juste une façon de trouver du travail, hein, pour être sincère. Donc voilà. Et petit à petit, bon, bah, y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Depuis maintenant, aujourd'hui, je travaille en clinique aussi. Notamment pour mon programme postpartum. Et là-bas aussi, j'ai une carte de travail. Donc là, il va y avoir un changement de statut pour moi. C'est juste que je vais être en freelance. Je pense que ça va être un statut de consultant auprès de ces endroits-là. Pour eux, ça ne change pas grand-chose. C'est pour moi que ça change parce qu'il y a plus de frais pour moi que pour eux. Mais moi, j'ai fait les choses de façon, comme je te l'ai dit, très organique, très progressive parce que je pense que les frais à l'entrée, ce sont des vraies barrières pour beaucoup de femmes, je le vois. Je vois que surtout selon les domaines dans lesquels on est, en Pilates, on en discutait, c'est très difficile d'avoir une licence correcte et d'avoir toute la légalité sans dépenser. Donc normalement, c'est entre 30 et 35 000 dirhams par an.
D'accord.
Donc on est sur du presque 9 000 euros.
Et est-ce que tu as des acteurs à nous conseiller vers qui se diriger?
Alors moi, peut-être que je pourrais t'envoyer, tu pourras peut-être les mettre les liens. Je connais un francophone, Karim, qui travaille dans ce domaine et qui s'occupe de trouver un sponsor parce que tu sais qu'on... Donc il y a deux possibilités. Si on est soit en mainland, soit en free zone, mais selon l'activité, on ne peut pas forcément choisir d'être en free zone. Et donc en général, on a besoin de sponsors locaux qui ne sont pas du tout impliqués en fait dans la compagnie, mais qui dépensent une certaine somme de base et qui nous permettent d'avoir un business en toute légalité. Et il y a un certain nombre de personnes qui peuvent vous assister à créer la bonne licence, choisir avec les bons mots pour qu'elle intègre toutes les activités quand vous avez des activités variées. Et voilà, bon, moi, je conseillerais Karim parce qu'il est pas mal.
Je le mettrai dans les notes.
Parce qu'il est francophone aussi, donc s'il y a des difficultés au niveau de la langue. Et puis, grâce à une de mes clientes qui est devenue amie, on a participé à un certain nombre d'événements qui s'appellent... avec Female Fusion, un certain nombre de groupes pour les femmes entrepreneurs qui veulent monter des startups. Et à l'occasion d'un de ces événements, j'ai rencontré Mariana, qui est une femme qui a beaucoup travaillé pour le gouvernement ici et qui a monté une entreprise qui s'appelle Bizmosis. Et donc, j'ai fait des consultations aussi auprès d'eux pour déterminer le meilleur statut pour moi. Mais en toute sincérité, ça, c'est des procédés, procédés très récents. Pendant longtemps, moi, j'ai préféré m'absoudre de ça et passer par la case carte de travail. Pour une raison, c'est très difficile de rentabiliser une première année des frais comme ça sur des activités d'entrepreneuriat, de start-up. C'est pas évident. Donc, moi, j'avais pas envie de ce genre de frais
Bien sûr.
J'en avais pas forcément besoin.
Ouais. Et d'une manière plus générale, quels sont les avantages et les inconvénients d'entreprendre à Dubaï?
Alors, je pense que ça dépend du domaine.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a une fraîcheur dans le marché qui permet... Alors on va commencer par les avantages, on va être positif. je pense que c'est un marché assez jeune et c'est assez récent qu'il y ait une immigration de personnes qualifiées importantes. Donc, moi, ce que j'ai vu quand je suis arrivée, c'est que, par exemple, dans le milieu du Pilates, Il y avait beaucoup de femmes qui faisaient quelques heures par semaine, faisaient pas particulièrement de formation, qui juste se reposaient sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition. Mmh. Quand je suis arrivée, c'était en train de se transformer, de devenir un peu plus compétitif, mais c'était pas encore saturé. Et bon, là, maintenant, c'est un peu plus saturé, mais on peut quand même vraiment tirer son épingle du jeu si on investit dans le savoir, si on essaye de pas faire juste le minimum et d'aller enseigner son cours, on va dire. Et je pense que dans tous les domaines, c'est un petit peu comme ça. C'est qu'en 2015, c'était beaucoup plus frais.
Ouais.
Il commençait à y avoir plus de demandes pour venir ici. Mais depuis, y a beaucoup plus de gens qui sont arrivés. Donc, il y a encore une possibilité de faire quelque chose. Et même si ça se tarit un petit peu.
Ouais.
Donc voilà, le gros avantage à mon sens, c'était qu'il y avait un manque de compétences dans la région. Donc moi, par exemple, dans le pré-post-natal, j'ai créé une formation pour les professeurs parce que je me suis rendu compte du manque de connaissances.
Mmh.
Et moi-même, j'avais fait deux formations ici que j'ai trouvées ultra basiques une fois que j'ai été dans le processus et que j'ai exploré avec moi et avec moi-même et avec d'autres... d'autres clientes, on va dire.
Ouais.
Donc, y a cette possibilité-là, créer sa propre formation à 31 ans, c'est pas évident dans un pays comme la France. Après, il y a plus de barrières à l'entrée, parce que monter une entreprise, c'est assez coûteux.
Ouais.
Mais il y a plus de façons de monter une clientèle de façon légale, mais sans avoir cette lourdeur administrative qu'on pourrait avoir, j'imagine, en France. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé de monter mon entreprise en France et je ne suis pas sûre d'avoir à le faire un jour.
Tu penses que tu aurais eu cette fibre entrepreneuriale si tu étais restée en France ?
Ah, je pense que je n'aurais pas eu le courage.
Ouais.
Déjà parce que c'est une question de mentalité. Moi, je viens d'un milieu très salarié, professeur ou cheminot, donc une culture très différente. Je pense que quand on est entrepreneur, on l'est vraiment intérieurement. C'est-à-dire qu'on aime à la fois... on aime prendre des risques mesurés, souvent. Et puis, on aime travailler. On ne peut pas être entrepreneur et travailler. Ça, s'arrêter, on travaille tout le temps, en fait. Parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Mais je pense qu'en France, il y avait des barrières à la fois sociologiques, financières aussi. On n'aurait certainement pas eu... Mon mari n'aurait pas gagné... aurait pas pu me soutenir de la même façon, je pense. Et puis moi, je pense, j'avais ces espèces de barrières intérieures parce que j'ai fait Sciences Po, j'ai travaillé à l'Assemblée, je vais pas aller être prof dans une salle de gym. Je pense, hein. Très honnêtement, surtout que il n'y avait pas l'attrait de gagner un salaire plus que décent. Donc c'est marrant, on a beaucoup d'amis qui m'ont dit, alors tu donnes des cours, quelques cours à des espèces de richissimes, et puis
les
et
clichés.
C'est quoi le reste de ta journée Et puis je leur ai un peu expliqué, tu sais, il y a une dimension dans le Pilate de rééducation. J'aide des gens. J'ai eu un jour un client qui est arrivé 33 ans avec une canne, quand même, deux opérations du dos. Et au bout de 7 séances, il marchait droit, sans sa canne. Et puis au bout de... maintenant, ils ne me voient plus, donc c'est qu'ils jouent au foot. Hein. Mais, donc j'ai essayé de leur montrer un petit peu que, encore une fois, un métier, c'est ce qu'on en fait, comme dit mon mari. ça allait au-delà. Mais je pense qu'en France, j'aurais subi un peu cette mentalité, j'aurais été un peu obsédée par le titre.
Ouais,
tu vois, quand je suis arrivée ici, j'ai mis du temps...
Par l'image, par...
J'ai mis beaucoup de temps à ne pas dire ce que je faisais avant. J'ai mis peut-être... il a fallu les 6 premiers mois de Pilates, où parfois, quand je rencontrais des nouveaux clients, je leur disais.
Ouais.
Par peur d'être pas considéré.
Ouais, maintenant, au contraire, prise au sérieux.
C'est ça. Maintenant, au contraire, ça me fait rire. Un jour, je devais avoir mon bébé avait quelques mois. J'étais en cours avec elle. Je venais donc de passer une heure à lui faire un cours privé parce qu'il y avait eu des annulations, donc elle était seule avec moi. Et à la fin du cours, je lui dis oui parce que j'ai eu beaucoup de travail la semaine dernière. Et elle me dit, ah bon, tu as un vrai travail. Alors, je venais passer une heure à l'écouter, la corriger, lui apprendre des techniques. Qu'elle aurait jamais connue sans m'avoir rencontrée. Et ça m'a fait beaucoup rire, en fait, intérieurement. Mais je pense que quelques années avant, j'aurais eu du mal.
Ouais.
Non, mais vraiment.
Ouais.
je lui aurais dit, mais c'est quoi ton problème? problème et j'aurais voulu la remettre à sa place et lui montrer que j'étais
très vexée,
que j'étais intelligente et que je savais plein de choses. Et maintenant, non, ça m'amuse. Au contraire, je me dis, qui est-ce qui va aller chercher?
Tant mieux. Et justement, tu me disais que donc, tes premiers clients, tu les avais trouvés aussi parce que tu t'étais greffée à des studios existants. Mais quand tu as commencé, donc, tes premières clientes à toi, comment tu les as trouvées en fait? Est-ce que tu communiques ici? Comment ça se passe en fait?
Alors, pas du tout.
Non.
J'ai utilisé ma... Je parle beaucoup, comme tu t'en rends compte. et j'aime bien les gens. Et donc, partout où j'allais, je pense que j'essayais de présenter un aplomb et de faire comme si ça faisait plus longtemps que ce que je faisais.
Ouais.
Parce que je savais que j'avais des compétences et que je voulais juste qu'on me donne une chance. Donc... mon tout premier client, ça a été l'ami dont je t'ai parlé. C'était un peu plus âgé que nous tous, que j'avais rencontré un mois avant un anniversaire par le biais d'un ami de mon mari, enfin d'un collègue de travail de mon mari à l'époque, et qui s'est proposé de venir avec moi au studio pour essayer. Alors il m'a dit le pilates c'est nul, c'est pas du sport, mais il voulait me soutenir, donc ça c'est bien fait, et ça m'a donné une forme de crédibilité. Et puis par la suite, je pense que ça s'est vraiment fait la première année, ça s'est vraiment fait juste parce que soit les gens entendaient parler de moi par le studio, soit moi dans la rue j'avais parlé à des personnes et puis elles m'avaient recontactée par la suite. Ça marche beaucoup comme ça ici,
le bouche à oreille,
les gens ils font confiance au feeling. Et en fait j'avais fait des efforts au début, je m'étais dit je vais faire une carte. J'ai jamais donné ma carte, on me l'a demandé, en fait j'ai donné mon WhatsApp. Et c'est plus une carte, ça se perd. Ouais. Un WhatsApp, quand on reçoit, tout de suite, on a envie de répondre.
Bien sûr, ouais. Je suis d'accord.
Donc, ouais.
Et on en parlait aussi en off. Tu vas aussi commencer une formation en ligne, puisque tu t'es aperçu qu'il y avait aussi une demande. Et ma question, c'est comment tu t'es fait connaître hors des frontières, finalement, enfin, hors de Dubaï?
Eh ben, je suis pas sûre que ce soit encore fait. Je pense que Instagram, c'est très utile. Moi, j'ai pas un gros compte, mais j'ai un compte assez authentique. C'est-à-dire que je sais que les gens qui suivent vont vraiment recommander ce que je fais à leurs amis ou si ça peut leur être utile. Donc, on est en train de travailler pas seulement sur l'aspect formation, mais sur le fait que mon programme postnatal soit à la fois personnalisé et en ligne. Parce que y a des barrières financières et aussi de localisation géographique à ce que je puisse le proposer à tout le monde. J'y suis pas encore. Ça, on est en train de rechercher une équipe de com pour ça. Parce qu'on sait qu'il va falloir qu'on augmente... quand je dis on, c'est j'ai une amie qui m'assiste sur un certain nombre de projets. Et on sait qu'on va avoir besoin, pour ce qui est de l'étranger et du... Le golf encore, ça peut se faire aussi par le bouche à oreille, puisque je vais, si tout va bien, malgré le virus, je suis censée aller le mois prochain en Arabie Saoudite pour un premier workshop, un premier atelier pré- et post-natal, ce qui est pour moi une expérience un peu inouïe. J'ai été approchée par un investisseur en Arabie Saoudite pour une cliente, tout simplement, pour offrir ses services là-bas. Et donc, l'idée, c'est que la formation soit à la fois en ligne, mais aussi que je forme sur place un certain nombre de personnes. Donc, on est en train d'y travailler, mais je ne suis pas encore, moi, je ne dirais pas que je suis reconnue à l'étranger. Je pense au-delà de mes frontières, pas amicales, je dirais, mais de mon réseau Instagram.
Et une question aussi que je trouve intéressante, on parle beaucoup de manière générale de la solitude de l'entrepreneur qui est encore plus intense à l'étranger, loin de chez nous, de la famille, des amis. Comment toi tu as géré ça personnellement? Est-ce que tu as des astuces pour le gérer au mieux?
Alors moi ma grande chance dans cette entreprise, on va dire, c'est que la base du travail qui est donc d'enseigner, elle est très sociale. Pas sociale dans le sens, on appuie justice sociale dans le sens où je rencontre beaucoup de gens.
Ouais.
Donc, il y a une solitude du prof, je dirais, mais j'ai très vite eu des personnes à qui discuter de l'entrepreneuriat, à commencer par la personne qui avait monté son studio, avec qui tous les jours on avait un esprit assez similaire, qui savait que je ne ferais pas que de l'enseignement à terme. Donc je me suis pas sentie isolée dans l'entrepreneuriat, je me suis peut-être plus sentie isolée en tant que prof parce qu'on est mis sur un espèce le coach, c'est un peu, il est un peu sur un piédestal et il doit beaucoup donner sans tout dévoiler. Donc, ça m'a beaucoup appris parce que moi, je partageais trop, je pense. Et même si un jour, il y a une carrière politique qui se présente, je pense que ça aura été très formateur parce qu'il faut vraiment apprendre à ne pas construire des limites et des frontières un peu intéressantes. Mais cette solitude, moi, de l'entrepreneur, je ne l'ai pas beaucoup vécue parce que grâce à mon travail, j'ai rencontré d'autres femmes dans des domaines différents qui m'ont appuyée, qui m'ont soutenue, qui croyaient en mon projet. Donc, je suis très soutenue, en fait.
Ouais.
Ouais. Puis, mon mari, il m'a soutenue. Donc, non.
Il fait quoi, ton mari, toi, ici ?
Il est dans la logistique et okay. travaille dans un grand groupe.
Ok.
Et je pense qu'à présent, il me jalouse un peu.
Ouais. Je ne sais pas s'il va m'écouter, mais
je pense qu'à la limite, ça, c'est un autre aspect à envisager, je pense. Quand on a quelqu'un qui est salarié et qui, bah, à la base, paye tout, hein. Il faut dire ce qui est, enfin, en tout cas, les gros paiements, ouais. Et la maison, une bonne partie de la nourriture, etc., la crèche, les grosses dépenses, c'est la personne qui est salariée, souvent, qui prend en charge, parce que la personne qui développe, elle investit dans son entreprise. Mais je pense qu'il y a un moment où c'est difficile dans le couple, de ce point de vue-là.
C'est-à-dire parce qu'il y a quelqu'un qui gèle. De mesure. Enfin, c'est...
Je l'ai entendu un jour dire à son frère, tu sais, en fait, j'investis indirectement dans son business. Et c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est pas un rôle très facile à avoir que de devoir se lever et travailler pour une grosse compagnie qui, avec beaucoup de politique interne et de voir quelqu'un qui, même s'il travaille beaucoup à côté de vous, même s'il travaille peut-être plus en termes d'heures, s'épanouit.
Ouais.
Donc je pense qu'il y a plus une solitude de celui qui accompagne l'entrepreneur.
C'est vrai que c'est pas faux, mais comme ça.
Celui qui entreprend lui-même, surtout s'il est soutenu.
Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes les femmes donc, dans leur maternité. On en parlait tout à l'heure. Tu as développé certains programmes pré- et post-matal. Toi, est-ce que tu aurais de belles histoires de femmes à nous partager que tu as accompagnées à Dubaï ou ailleurs, aux Émirats ?
Ben, c'est pas facile parce que on a fait les chiffres la semaine dernière et les trois dernières années, j'en ai vu 284. Donc, des histoires, j'en ai beaucoup. mais je vais essayer de discuter de certaines. Je pense que ce qui manque beaucoup dans l'expatriation, ce qui est difficile quand on devient maman, c'est qu'on est... pour le coup, là, on est très isolé. Et moi, ce que j'ai essayé de créer... C'est justement un programme qui financièrement était possible pour certaines femmes qui, bah parce qu'il y a aussi un manque à gagner. Hein. Moi, par exemple, j'ai rien touché du tout pendant mon congé. Et il y a des femmes qui ne travaillent pas. Et donc, malheureusement, c'est une période où on aurait besoin d'avoir plus de moyens et on en a souvent moins. Donc, à la base, je voulais créer des groupes pour ça parce que j'avais beaucoup de clientes qui étaient post-natales et qui voulaient ne pouvaient pas se permettre de prendre des cours privés avec moi. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce que je créais, c'était une communauté. Pour moi-même, à la base, parce que le premier programme post-natal que j'ai fait, j'étais à 5 mois après ma grossesse. Et j'ai d'ailleurs rencontré beaucoup d'amis dans les premiers mois par ce biais-là. Mais oui, c'était une communauté. Enfin, j'ai des groupes qui se parlent encore. C'est-à-dire, ils m'ont dit « Ah, toi, t'es sortie du WhatsApp ?» Parce qu'à chaque fois, tous les mois, quand je créais un nouveau groupe, hein, je créais un nouveau WhatsApp. Et moi, j'en sortais parce que WhatsApp, c'est vraiment la fin de ma vie si je vais sur tous les groupes. Et elle me disait « Ah, tu nous as ditché, mais nous, nous, on se voit toujours et on prend des cafés. » Le fait qu'elles se soutiennent, moi, c'était vraiment... Je me suis dit « Bon, j'ai servi à la fois à réparer leurs abdominaux et à les sensibiliser sur leur périnée, etc. Mais j'ai aussi servi à leur apporter un soutien perso. » Et après, de façon plus personnelle, je pense qu'il y a une personne qui m'a... Enfin, il y a beaucoup de gens qui m'ont touchée, mais qui récemment m'a beaucoup touchée. C'est une cliente que j'ai rencontrée. J'ai commencé par entraîner son mari au studio. Et il m'a appris à ce moment-là, moi j'étais enceinte de 36 semaines de mon premier bébé, donc j'allais m'arrêter. Et il m'a appris qu'ils avaient perdu l'année précédente leur petit garçon, après avoir eu, ils avaient déjà 3 filles. Ils sont italiens, assez catholiques. Et donc bon, moi j'étais complètement choquée et sa femme était très en colère contre lui. C'est comme ça qu'on avait commencé un petit peu à se parler. Elle m'a dit « Je suis désolée qu'il t'ait dit ça alors que tu es enceinte ». Mais j'avais été très touchée. Et puis l'année d'après, moi qui avais commencé à me spécialiser dans le pré-post-natal, je la retrouve dans un cours. Elle était enceinte de leur 5e, mais 4e enfant. Et on s'est beaucoup rapprochés. Et puis, elle est à la base sage-femme, mais elle n'a jamais trop eu le temps de travailler puisqu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Et là, elle est enceinte de leur sixième, donc on est enceinte en même temps. Et elle a vécu un drame qui est juste complètement inimaginable. Je pense que perdre un enfant, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement lourd. Et moi, j'ai eu un accouchement très, très, très compliqué, très mal géré, des grosses erreurs médicales et puis beaucoup de traumatismes physiques et émotionnels. Mmh. Et c'est une expérience qui isole beaucoup. Donc j'en ai créé du sens par mon travail, mais ça a été très dur de me sentir... dans le trauma, on a besoin de se sentir validée. Mmh. Et bon, tous les accouchements ne sont quand même pas faciles en général. Mmh. Donc c'est très dur on a l'impression qu'on doit s'expliquer. Et cette femme, on s'est beaucoup apportée parce que je pense qu'on a toujours... on n'a jamais jugé le trauma de l'autre... qu'est-ce qui fait plus mal, je me suis toujours sentie très soutenue. Voilà. Ouais. Je pense que ce qui est beau pour moi, c'est de savoir qu'elles sont accompagnées. Et c'est encore plus beau quand j'arrive à avoir de l'accompagnement en retour, on va dire. Ouais. Mais elle m'a toujours fait sentir très validée dans mon expérience. Et elle en a vécu des accouchements.
Ouais.
Donc, et elle est sage-femme. Ouais. Donc c'est important, je pense, quand on essaye de se débarrasser du trauma. Voilà.
Merci beaucoup. Tes prochains projets ?
Alors, il y en a beaucoup.
Tant mieux.
Alors, de façon assez technique, il y a les femmes, après avoir eu un enfant, elles ont quelque chose qui s'appelle la diastase, donc une séparation abdominale. Et maintenant, j'ai acquis une réputation assez solide pour les aider à le refermer et éviter des opérations si possible. Et je suis en train de travailler sur un pantalon qui aiderait à la fois pendant la grossesse et après. Voilà, comme je suis en clinique, j'aimerais bien qu'on fasse une petite étude scientifique. On est en train d'en discuter pour prouver que le programme marche. On est aussi en train de protéger le programme. Donc, c'est pas facile de choisir. Est-ce qu'on fait un trademark, est-ce qu'on fait un brevet? C'est vraiment pas évident. c'est beaucoup. Et puis, tous les projets en ligne. Et la dernière chose dont on a parlé, toi et moi, c'est que moi, je pense que les femmes en savent plus qu'avant, mais elles en savent toujours pas assez sur ce qui est normal et ce qui est pas normal après avoir eu un enfant. Et je refuse d'entendre des femmes qui disent « Ah, mais c'est normal de se faire pipi dessus, et puis c'est normal d'avoir mal pendant les rapports. » Et moi, c'est un truc que je refuse. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'éducation de façon rigolote voilà, à la fois fun et scientifique pour faire avancer la cause de la femme, des femmes dans le monde. Voilà.
Super.
Et si possible, Arabie Saoudite, ça serait fabuleux pour moi, ça serait vraiment la jonction, si ça arrive à se faire, la jonction du politique d'une certaine façon et de ce que je fais au quotidien.
Génial. Maintenant, on va passer à quelques petites questions sur Dubaï. L'idée, c'est d'y répondre sans trop réfléchir.
Ok.
Tes premières impressions lorsque tu arrives à Dubaï ?
Il faisait chaud, il faisait beau. J'étais pas obligée de prendre le métro. Le tram était clean. Non, je pense que c'est ça. Il fait beau. Même si on a une dure journée, on peut aller à la plage. Et puis c'est safe. En tout cas, en apparence, c'était pas du tout pour dire qu'on sait tous qu'on est dans un régime autocratique et qu'on a des libertés limitées. Mais quelque part, parfois, quand on se sent plus en sécurité physique et émotionnelle, on arrive à se sentir plus libre. Donc, c'est assez intéressant pour une Française de vivre ça.
Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ?
Oh, j'en ai trop. Je ne saurais pas par où commencer. Non, ce n'est pas la meilleure, mais une des premières. Moi, quand je suis arrivée, je parlais un petit peu anglais. Très royal, tu vois. Parce que j'avais vécu en Angleterre, tout ça. Et mon mari se moquait beaucoup de moi parce qu'il était un peu jaloux aussi. Il est beaucoup jaloux, ils vont croire qu'il est très jaloux. il était un peu... Il n'avait jamais vécu à l'étranger, tout ça. Et en fait, ici, donc, il y a quand même une forte population asiatique. On est sur 80% à Dubaï. Je pense que je reçois souvent des questions sur comment ça se passe avec les locaux. Les locaux, on ne les voit pas beaucoup. Je crois qu'au niveau démographique, c'est une dizaine de pourcents.
Ouais.
Les expats blancs, on va dire... ou plutôt occidentaux, c'est une dizaine de pourcents. Et puis après, on a une population asiatique qui fait le reste. Et puis, donc on arrive dans un restaurant
Et moi, je fais une phrase très élaborée pour demander qu'est-ce que c'est, est-ce que vous pourriez m'expliquer avec gentillesse, quel est le menu, tout ça. Et il ne comprend pas. Et donc là, je réduis ma phrase de 2-3 mots. Et là, mon mari se tourne vers lui, il lui fait « Explain, please !» Comme ça. Et le type nous a tout de suite expliqué le menu. Enfin, c'était très mignon. Et c'est là que moi, ça a été une de mes barrières, en fait. C'est-à-dire venir avoir vécu dans des pays anglophones,
ouais,
et arriver dans un pays où, en fait, bah, y avait de l'anglais très, très divers, on va dire. Mmh, plus de diversité, ouais, en anglais. Donc voilà.
Si tu devais résumer Dubaï en 3 mots.
C'est très jeune, c'est dynamique et ça vibre. C'est tout positif, je suis désolée. c'est ce qui vient.
C'est génial.
C'est ce qui vient.
Que dirais-tu de la communauté française à Dubaï ?
Je la fréquente assez peu, mais si je devais dire quelque chose, parce que par le biais de Dubaï Madame, pour qui j'ai écrit quelques articles au cours des années, j'ai rencontré plus de monde. Et puis aussi par le biais d'un ancien ami qui était collaborateur pour l'ancien député ici, j'ai rencontré d'autres personnes. Mais il y a plusieurs communautés françaises, en fait. Il y a les gens qui sont arrivés il y a très longtemps,
ouais,
qui ont fait des fortunes, hein, il faut le dire, mmh, qui sont dans un milieu un petit peu à part et qui n'ont peut-être pas vu Dubaï évoluer comme nous, on l'a vu.
Mmh.
Et puis, il y a des gens qui sont arrivés plus récemment, on va dire depuis 2012, 2015, 2018, ou comme toi, fraîchement débarqués, et qui ont peut-être un petit peu plus les pieds sur terre, je, ouais, pense.
Quel conseil donnerais-tu à une famille qui souhaiterait s'installer à Dubaï ?
Alors, c'est là que c'est moins glamour, mais il y a deux choses qui sont vraiment importantes, parce que ben, là, j'ai vendu du rêve, et je pense que le problème, c'est que les médias et un certain nombre de comptes Instagram très suivis, dont je te parlais, que j'ai découvert par le biais d'amis marseillais, qui vendent une vie parfaite.
Quel compte, par exemple ?
Mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, parce que comme je te le dis, moi, la télé-réalité et tout ce qui est Instagram très suivi, ce n'est pas vraiment ma dope. Mais je chercherai. Mais je crois qu'il ne s'appelait pas Les Marseillais, justement. Tu connais pas
l'émission de télé-réalité, les
Marseillais ? Oui, mais en fait, je crois qu'il y a un couple qui est venu s'installer ici.
Ah oui.
C'est dont j'ai entendu parler. Bon, voilà. Mais je pense que tout ça, ça vend, ouais, beaucoup de rêves. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est quand même une vision de la réalité qui est quand même
biaisée,
très biaisée, ayant moi-même un tout petit compte je vends plus de rêves, je parle plus de comment j'arrive à avoir des abdos que de mes soucis de grossesse.
On parle de ce qui va bien.
voilà, c'est ça. Et en fait, je pense qu'au-delà de ça, il faut vraiment se parer sur deux plans. Le premier, c'est le plan financier, sécurité sociale, etc. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui croient que parce qu'un salaire semble élevé aux yeux, au niveau français, ils oublient qu'il y a des coûts de la vie, il y a un coût de la vie qui est phénoménal et qu'il n'y a aucune sécurité.
Mmh.
Donc il y a une sécurité physique qui est très importante ici. On ne se fait pas voler. Moi, j'ai déjà laissé mes portables partout. Mais voilà, il faut penser qu'il y a un coût qui est très important, et notamment il faut penser au coût de santé et à l'assurance, et à si on est capable de subir un petit choc. Par exemple, nous, quand on est arrivé, on était sur un salaire. Moi, on avait acheté 2 appartements en France, je travaillais pas, et mon mari s'est fait mal au genou en allant jouer au foot. Une assurance, ça prend pas en charge une attelle de 1 500 €. Mmh. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prévoir.
Ouais.
Faut pas arriver et se dire les écoles, c'est très cher, mmh, surtout avec le coronavirus.
Mmh.
Puisqu'on paye et ses enfants ne vont pas à l'école. Blague à part, je pense que c'est la vie est très chère et on n'a pas... Enfin voilà, il faut vraiment être très bien assuré. Nous, on a perdu un appart à un moment donné parce qu'il y a eu un feu. Les feux, ça arrive... On a dépensé quand même beaucoup d'argent pour déménager, trouver un autre appartement. Donc, il ne faut pas oublier que les aléas, ce n'est pas comme en France. Ils sont tout pour votre pomme.
Ouais.
Donc, il faut vraiment prévoir. Il ne faut pas dire, ça a l'air un petit peu mieux. Mmh. Donc, on débarque. La deuxième chose, ça, ce n'est pas un truc que j'ai vécu personnellement, mais c'est un truc que je vois chez mes clientes francophones et françaises en particulier, c'est la langue. Il ne faut pas arriver et ne pas parler.
parce que on se dit qu'on va apprendre, on se dit qu'on va aller travailler, mais c'est un marché qui est devenu...
Ne pas parler anglais, tu veux dire.
Anglais, ouais. Mm. On se dit... Non, pas arabe. Moi, j'ai fait des cours d'arabe, ça ne m'a pas servi à grand-chose ici, parce que peu de gens pratiquent, tout simplement. Mais c'est devenu assez compétitif, comme je te le disais avant, et il faut être capable de bien s'exprimer. Et au-delà de l'aspect professionnel, on peut vite se sentir isolé si on peut communiquer... Avec peu de monde, en fait.
Ouais, bien sûr. Voilà. Et une dernière question, et après, on arrêtera. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut entreprendre ici ?
Alors, ça dépendrait vraiment, je pense, tu sais, de son domaine. Mm. Mais on en a parlé, puisque toi, t'es dans cette situation-là, actuellement. Je pense qu'il ne faut pas trop se dépêcher. Faut un peu déjà prendre conscience du marché parce qu'il change beaucoup et puis il est très particulier. Comme je te le disais, ici tu peux pas arriver faire une campagne de com et tu vas trouver. Moi par exemple, si j'étais arrivée, j'avais fait une campagne de com, mais j'aurais juste dépensé mon argent pour rien. J'aurais pas de clients. Donc il faut se poser, faut observer un petit peu, faut parler à des gens, faut aller dans ces rendez-vous, par exemple, ce que je te disais, Female Fusion ou Thrive Talks. Thrive Talks, c'est un très bon endroit avec des gens qui ont réussi dans la région et qui sont assez jeunes, qui font des discussions. Ils organisent par exemple des ateliers sur la propriété intellectuelle, sur plein de... Quand tu es entrepreneur, plein de choses importantes.
Dubai Madame aussi propose des ateliers.
Ah ouais, voilà, pour la communauté francophone, Dubai Madame est évidemment une référence. Et puis bon, ils abordent tous les sujets, donc je pense que ça c'est important. Je pense qu'il faut, il faut pas trop se dépêcher, il faut bien prendre conscience de son environnement et faut s'associer avec, au début peut-être, sur des petites initiatives, des petits événements, avec des personnes qui connaissent peut-être un petit peu mieux le coin ou le marché, avant de développer son idée à soi et d'être vraiment sûr, c'est là que je vais aller, c'est là que j'ai ma niche, c'est là que j'ai ma patte à apporter. Non, ça se dit pas. On perd son français quand on a vite. Mais c'est là que j'ai mon plus, j'ai ma valeur ajoutée, quoi.
Ouais.
Je pense que c'est ça. Et oui, aller s'inspirer, parler, prendre des cafés. Ça a l'air idiot, mais moi, les gens, je les ai rencontrés grâce au travail, en parlant, en fait.
Voilà.
Et quand on est en cours et que les jambes en l'air dans des machines qui ont l'air ouais. Ils ne sont pas en train de parler de la conjoncture économique. Ils parlent plus librement, on va dire.
C'est ça. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à toi.